France Culture.
Bonsoir à toutes et tous et bienvenue au Musée Calvet pour les fictions de France Culture. Le texte que vous allez découvrir ce soir est une adaptation du magnifique roman graphique de l'autrice libanaise Lamia Ziadeh, « Aux nuits, aux mes yeux », qui est apparu aux éditions POL en 2015 et que je vous invite vraiment à lire dans son intégralité. Ce texte, ce soir, nous emmène au Caire, au début du XXe siècle, en pleine effervescence artistique et politique. Dans les cabarets, sur les bords du Nil et sur les écrans de cinéma, les chanteurs sont de véritables vedettes. Et nous allons suivre ce soir plus particulièrement les trajectoires d'Asmahan et de la légende Oum Kalsoum. Nous accueillons sur scène les comédiens Ayad Darwish, Najib Oudghiri, les compositeurs et musiciens Simo Reyn et Tim Garçon et la chanteuse Emel Matlouti. Cette soirée est réalisée par Christophe Hoquet. Très bonne soirée à tous.
Thank you.
في يوم ضبابي من أيام الخريف دخلت باخرة إلى ميناء بيروت، وعلى متنها مسافرة استثنائية. هي طفلة صغيرة ولدت على ظهر الباخرة أثناء الرحلة، أسموها أمل. كان ذلك في تشرين الثاني عام 1917. والد أمل
Un steamer pénètre dans la brume du port de Beyrouth. À son bord, un passager un peu particulier. Une petite fille est née pendant le voyage. Elle s'appelle Amel, ce qui signifie espoir en arabe. C'est lourd. Nous sommes en novembre 1917. Le père d'Amel, l'émir Fahd al-Atrash, est druze. Il vient de Syrie. Sa mère, l'émira Aliya, vient du Liban. Il vivait en Anatolie. Mais depuis quelques années, la situation a beaucoup changé au Proche-Orient. Et les Druzes, le clan Atrash en tête, soutiennent la révolte arabe contre les Turcs. Menacés par l'armée ottomane, le père, la mère et les deux frères d'Amel embarquent précipitamment pour le Liban. Ce que nous savons aujourd'hui, et que nul sur la passerelle de ce bateau ne peut alors imaginer, c'est qu'Amel, ce bébé serré dans les bras de sa mère, deviendra un jour la fameuse Esmahan. Nous connaissons aussi la prédiction qu'un géomancien lui fera vers l'âge de 15 ans. Tu es né sur l'eau, et dans l'eau tu périras. Et nous n'ignorons pas qu'Esmahan mourra à 27 ans, tragiquement noyé dans le Nil.
فوق الماء ولدت وتحت الماء ستموتين.
Mais nous n'en sommes pas encore là. Après Beyrouth, il y aura d'abord les rues du Caire, les cabarets, les casinos, et puis les maris, les amants, le jeu, l'alcool, les somnifères, l'argent, les suicides, les brownings, les scandales, les palaces, et le chant, la musique, les triomphes, l'opéra, la gloire.
Pour l'instant, la Grande-Bretagne et la France se partagent le Levant, trahissant les promesses d'indépendance faites aux Arabes au début de la guerre contre les Ottomans. Fahd et Aliya retournent s'installer dans le Jebel, le fief syrien aride de la famille Atrash. La lutte pour l'indépendance continue.
Quand le Jebel est bombardé par les avions français, Aliya s'enfuit avec ses trois enfants, d'abord Beyrouth, puis le Caire. Aliya est raffinée et cultivée. Elle a été la première femme de Beyrouth à conduire une automobile. Elle ne porte pas le voile, elle joue du oud. Et elle a une très belle voix.
Le Caire, métropole arabe et cosmopolite, ville de tous les possibles. Elles sont nombreuses, les femmes de Syrie et du Liban, à y avoir tenté leur chance.
Rose El-Youssef est née à Beyrouth. En 1925, elle est au sommet de sa gloire lorsqu'elle quitte la scène pour fonder un magazine. Elle ose s'attaquer au roi, ose défendre les femmes, ose parler de sexe, ce qui la conduira parfois en prison. Mais surtout, elle défendra toujours les artistes.
En 1926, quand Badia Amassabni ouvre son premier cabaret, le triomphe est immédiat. Elle devient l'indiscutable papesse des nuits kérotes. Elle qui avait fui Damas à pied, elle dirigera avec génie une troupe qui rassemble les plus grands talents de l'époque.
Et puis, il y a l'arrivée du cinéma. En 1927, Leïla est le premier film entièrement égyptien.
Scandale. Aziza Emir ose y exécuter une danse du ventre.
Des centaines de films égyptiens vont suivre et elle créera sa propre maison de production, Isis Film.
S'il n'est pas imaginable pour une émira druze de vivre de son art, Aliya veille à ce que la musique reste au centre de la famille. Elle s'achète une machine à coudre, travaille à domicile. Sous un faux nom, elle inscrit Foued et Farid à l'école catholique française et Amal chez les sœurs. Farid et Amal font partie des chorales de leurs écoles respectives. Ils sont très vite repérés et prennent des cours de musique.
Les enfants grandissent dans un foisonnement où l'on jouit du meilleur du monde moderne, culturel et artistique au Moyen-Orient. La Nahda, mouvement de renaissance arabe initié il y a 100 ans, est à l'apogée de son épanouissement en politique, littérature, poésie et en musique, bien sûr.
Le frère et la sœur sont envoûtés par la voix d'Abdel Wahab. À la fin des années 20, ce fils de muezzin, que rien ne destinait à la musique, est devenu un compositeur audacieux et novateur, multipliant les emprunts à la musique occidentale. Il est le chanteur le plus aimé du Caire. Depuis qu'Abdel Wahab est là, tout le reste est démodé.
Le phonographe est une invention miraculeuse. Amel retire les morceaux qu'elle n'a écoutés qu'une fois. Farid devient un virtuose du oud et commence à jouer pour de petites radios privées.
Mais Fouad, leur frère aîné, semble insensible au Mouachahad, au Mawawil et au Layali. Variation infinie sur ces quatre mots.
Yalil, Yaini.
Aux nuits, aux mes yeux. Il voit d'un mauvais œil cette plongée dans un divertissement qu'il estime trop vulgaire pour une famille d'émirs druzes.
Alia tient maintenant salon musical chez elle, accueillant musiciens émigrés et égyptiens. On raconte qu'un jour, alors que Krasabji rend visite à son jeune élève Farid, il entend Amel reprendre la chanson d'une comédie musicale américaine. Lui, le compositeur prodigieux, le virtuose du oud, lui qui a écrit la plupart des chansons d'Oum Kalsoum à l'époque, il n'en croit pas ses oreilles.
Quant à Daoud Hosni, compositeur des premières opérettes en arabe et du premier opéra égyptien, lorsqu'il entend Amal chanter chez elle une chanson d'Oum Kalsoum, il propose de l'appeler Asmahan, ce qui veut dire sublime en persan. Ce nom a la majesté qu'il faut pour une voix capable de faire venir les larmes aux yeux. Et pendant plusieurs années, le nom d'Asmahan ne sera pas associé au nom des Latrash. Ce serait le déshonneur et la mort pour une druze de se produire en public.
C'est à cette période qu'avec Dessous et ses amis du collège, Amel va voir un géomancien. Quand vient son tour, elle se voit déjà la reine de Saba. Au lieu de quoi, elle entend l'homme accroupi sur un petit tapis usé prononcer cette sentence troublante. Tu es né sur l'eau, et dans l'eau tu périras. Elle ne se doute pas encore que cette prédiction funèbre la hantera toute sa vie, et que toujours elle passera à l'écart des plages d'Alexandrie, de Beyrouth et des piscines des grands hôtels. En vain.
فوق الماء ولدتي وتحت الماء ستموتي
يا حبيبي تعال الحقني شوف اللي جرالي من بعدك
Farid commence à se faire un nom en tant que joueur de oud. Asmahan obtient un contrat chez Columbia pour 15 enregistrements. Et puis un jour, elle est invitée à chanter à l'Opéra Royal. Même Fouad ne peut pas résister.
L'Opéra Royal est la plus grande fierté des Kérotes, au même titre que les pyramides de Gizeh. Amel se prépare, pétrifiée devant le miroir. Elle semble toute petite malgré les chaussures à talons qu'on ne voit pas sous sa robe et le voile qu'elle a savamment surélevé par un chignon. Elle ne bouge pas d'un iota, tétanisée. Elle chante de toute son âme. C'est un triomphe.
L'enthousiasme pour cette nouvelle voix attire des cohortes de visiteurs vers la maison familiale, y compris Oum Kalsoum. C'est un honneur pour la petite Asmahan. Elle idolâtre Oum Kalsoum et connaît toutes ses chansons par cœur.
Oum Kalsoum est alors une chanteuse qui ne ressemble à aucune autre. Et elle a d'ailleurs éclipsé toutes les autres. Une personnalité hors du commun, une voix unique. Elle n'a pas 30 ans et tout le monde au Caire sait qu'elle est incomparable. Mais certains vont bientôt lui trouver une rivale.
Inna anzalnahu fi laylatil qadri. Wa ma adraka ma laylatul qadri. Laylatul qadri khayrun.
Oum Kalsoum est née dans le delta du Nil aux alentours de 1904. Elle serait née la nuit du destin, celle où l'archange Gabriel a révélé à Mahomet les versets du Coran. À 5 ans, elle intègre l'école coranique. Son père est imam de la mosquée locale. Avec son fils Khaled et son neveu, il chante au mariage des villages voisins. Un jour où Khaled balbutie, Oum Kalsoum surgit de derrière la porte. Elle est capable de réciter le livre saint avec une diction et un rythme parfait. La première fois qu'elle chantera en public, ce sera lors d'un mariage, pour remplacer son frère malade. On l'habille en garçon pour l'occasion, les chants religieux ne pouvant être psalmodiés que par des hommes. Cette petite fille, qui chante des odes au prophète d'une voix forte, devient la vedette de la famille. Elle porte toujours une sorte de keffieh enroulé sur la tête, qui ne laisse voir que ses yeux et sa bouche. Le 15 septembre 1923, Oum Kalsoum emménage au Caire avec son père. Très vite, elle se produit dans les salons de la haute société et signe un contrat avec Odéon. Ses disques se vendent très bien. Les plus grands professeurs lui donnent des leçons de musique, Husni et Qasabji les premiers. Ils ne se font pas prier, ni payer d'ailleurs, frappés par son don et sa voix exceptionnelle. Mais elle chante toujours dans sa tenue de jeune bédouin, accompagnée des seules vocalises des hommes de sa famille. Malgré sa voix, que personne ne songe à discuter, on commence à critiquer le keffieh qu'elle a sur la tête, la présence des paysans avec elle, et finalement, son répertoire lui-même.
Pourtant, en dépit de son austérité, bien loin de ce à quoi est habitué le public kérote, la jeune paysanne arrivée au Caire depuis 3 ans n'est déjà plus la même. Le bouleversement est profond, même s'il n'est pas encore visible. L'homme responsable de cette mue est le poète Ahmed Rami. Amoureux fou, il le restera jusqu'à la mort d'Oum Kalsoum, sans jamais être payé en retour. Lui qui traduit Khayyam, le sulfureux poète perse du XIIe siècle, il fait un geste décisif. Il lui offre ses propres poèmes. Oum Kalsoum est prête, elle demande à Qasabji de les mettre en musique. C'en est fini des vieux chants religieux en arabe, dont le sens échappe à la moitié des auditeurs. Oum Kalsoum s'habille maintenant en crêpe de Chine et s'exprime en français. La métamorphose est complète, mais la transfiguration la plus spectaculaire est ailleurs. Elle a réussi à remplacer sa famille de paysans par un orchestre prestigieux, un tart éblouissant. À l'ouverture de la saison 1927, son tart est composé des meilleurs musiciens du Caire. Leur réputation dépasse celle d'Oum Kalsoum elle-même. Mohamed El Qasabji est le grand Manitou de ce tournant historique. C'est lui qui a convaincu ses prestigieux instrumentistes à se joindre à Oum Kalsoum. Au Khanoun, Mohamed El Aqad, dit Aqad le Grand. Et au violon, le soliste virtuose syrien Sami El Shawa. Quant à Qasabji lui-même, le plus jeune membre de ce tart, il est l'un des plus grands joueurs de oud au monde. C'est un expert de la musique savante et un pilier du renouveau de la musique arabe contemporaine. Le premier concert d'Oum Kalsoum avec son tart est un triomphe.
L'adoration de Rami crève les yeux et encore plus les oreilles, car c'est en vers qu'il la déclare. Toi qui es à mes côtés et si loin, je vois ton ombre et oui ta voix. Ta distance me tourmente, vois mon état.
Pourquoi, mon amour, me fais-tu souffrir? Pourquoi ôtes-tu le sommeil de mes yeux? Qu'ai-je fait pour être malmenée et abandonnée au feu qui me brûle?
Qasabji est peut-être plus secret dans son amour. Pourtant, comme Rami, il a façonné la personnalité artistique d'Oum Kalsoum. Il l'a formé musicalement, il a composé son tart et le dirige. Mais surtout, il est devenu son compositeur attitré presque exclusif.
Une époque de gloire absolue s'ouvre devant elle. Elle va durer 50 ans pour Oum Kalsoum, pas pour Qasabji, dont le destin sera l'un des plus tristes et des plus obscurs de l'histoire de la musique arabe. mais pas trop vite. Aujourd'hui, il voue sa vie et son talent à sa captivante interprète, la plus grande chanteuse d'Égypte.
En 1934, la création de la fameuse radio Misr, la première radio nationale égyptienne, va bouleverser le paysage de la musique en Égypte. C'est Oum Kalsoum qui l'inaugure. Pour la première fois, on peut l'écouter à travers l'Égypte entière, de la Méditerranée aux frontières du Soudan. Et pour ne pas laisser l'avantage à Abdel Wahab, elle a accepté, comme lui, de signer un contrat régulier. Chacun d'eux a exigé de passer le jeudi soir, veille du vendredi jour férié. L'antenne a été équitablement partagée et ils touchent le même salaire.
En 1937, elle obtient que tous les premiers jeudis du mois, ses concerts publics soient diffusés en direct à la radio. Cela devient aussitôt une institution.
Mais pour elle, le jour du concert est terrible. Elle chante 3 ou 4 chansons et les concerts durent 3 ou 4 heures. Toute la journée, elle lit le Coran pour se préparer.
Quand le rideau se lève, Oum Kalsoum est assise sur une chaise au milieu de son orchestre, droite comme un I, les mains posées sur ses genoux, triturant son mouchoir de soie. Après une introduction instrumentale qui tient l'auditoire en haleine, elle se lève et s'avance sur scène. Sa voix jaillit et s'étire indéfiniment en variations hypnotiques. Sa maîtrise de la Baha, en roumain, de la Runa, sonorité nasale, lui permet de répéter une même phrase à l'infini avec des aharif, ornements chaque fois différents. Ces modulations mettent littéralement son public en transe. Ses interprétations sont légendaires, elles tendent parfois vers un râle proche de l'orgasme. Le tarab, ce moment paradoxal de maîtrise technique et d'abandon total, chargé d'une réelle dimension sexuelle, mène à l'extase musicale partagée avec le public, à une jouissance esthétique. Le premier jeudi du mois, les rues se vident, la vie s'arrête, sans distinction de classe. Tous les Égyptiens se pressent autour d'un poste de radio, à la maison ou au café. Sa voix surgit des entrailles de la ville, puissante et obstinée. Elle fait durer le tarab le plus longtemps possible.
Tous les Égyptiens connaissent la voix d'Oum Kalsoum depuis 2 ans, quand ils découvrent son visage au cinéma. La création des fameux studios Misr, par le banquier Talat Harb, est un événement national majeur, profondément patriotique. Nationaliste engagé, il applique les mêmes principes que pour la banque Misr, dont il est le propriétaire influent. Il n'emploie que des Égyptiens et uniquement des capitaux égyptiens.
Fleurons de la modernité. Les studios seront officiellement inaugurés le 12 octobre 1935. Tandis que la nuit commence à tomber, les 500 invités empruntent la route de Gizeh. Au loin apparaissent les pyramides, lorsque surgissent les studios dans un halo de lumière. Plateau, atelier de décors et de costumes, hangar des machines, salle de montage, studio son et finalement la salle de projection. Une surprise de taille attend les invités. Lorsqu'on leur passe un dernier court-métrage, ils découvrent leur propre arrivée dans les studios.
Toujours prêt pour de nouvelles expérimentations, Abdel Wahab a déjà joué dans 2 films chantants dont il a aussi composé la musique. La chanson de film telle qu'il la conçoit est un coup de tonnerre dans le contexte conservateur de la musique arabe de l'époque. Outre ses emprunts audacieux à la musique occidentale ou latino-américaine, il introduit le duo chanté avec ses partenaires, forme qui n'existe pas dans la musique arabe, raccourcit ses chansons pour qu'elles s'intègrent à l'histoire et n'a pas peur d'écrire de courtes chansonnettes après avoir composé des chefs-d'œuvre de musique savante. Le succès est phénoménal.
Oum Kalsoum s'est trouvé en Abdel Wahab un rival à sa mesure dont elle a besoin pour avancer. Ils restent les deux favoris du public. Mais un autre chanteur va bientôt leur ravir la première place au cinéma et devenir le jeune premier préféré du public. C'est Farid El Atrache, le frère d'Asmahan. Dès la fin des années 40, ce sera lui le chanteur le plus demandé, et pour longtemps.
Oum Kalsoum est adulée dans tout le Levant. On l'appelle la Cite, la Dame, l'Astre de l'Orient. Au Liban, en Syrie, en Irak, en Palestine, partout on lui fait un triomphe. Lorsqu'elle arrive dans le port de Beyrouth, des dizaines de barques de pêche vont au-devant de son paquebot.
Pourtant, depuis le soir où Asmahan a chanté à l'Opéra du Caire, le public, le milieu et Oum Kalsoum elle-même, tous savent qu'une étoile est née. Elle est très jeune, elle est très belle et elle a une voix déchirante, une voix qui fait monter les larmes aux yeux. Cette fois, Oum Kalsoum n'a pas affaire à une énième imitatrice. Comment va-t-elle falloir prendre cette nouvelle rivale ?
Oum Kalsoum n'aura rien à faire. D'autres vont se charger de briser l'envol pris ce soir-là par la jeune fille à l'Opéra Royal. Il y aura la famille Druze dans le Jabal, et Fouad, son frère. Il y aura la famille royale d'Égypte, le roi Farouk, mais surtout la reine Nazli. Il y aura les officiers anglais, français et peut-être même allemands. Il y aura l'administration égyptienne, il y aura la presse. Il y aura les maris et il y aura les amants. Mais la pire ennemie d'Asmahan, c'est Asmahan elle-même.
Asmahan chante maintenant dans les soirées musicales de la haute société, comme Oum Kalsoum et Abdel Wahab avant elle. Elle enchaîne radio et soirées privées, quand pour la première fois, son frère aîné Fouad, qui ponctionne largement ses salaires, accepte qu'elle chante sur la scène d'un cabaret. Il a une peur bleue que l'identité de sa sœur soit percée à jour. Et fatalement, elle l'est.
Bientôt, le Caire tout entier sait qu'Asmahan est en réalité l'émirat Amel Al-Atrash. Et lorsqu'à son tour, on vient lui proposer un rôle au cinéma, l'opposition de Fouad est sans appel. Les films égyptiens sont projetés dans toutes les salles du monde arabe. Il suffirait qu'un Druze, un seul, la voit avec un homme à l'écran et tête nue pour qu'il retourne la terre entière, la retrouve et lui plante un poignard dans le cœur. Et lui, Fouad, serait trucidé pour avoir donné son accord à pareille infamie. Le mariage, pense-t-il, est la seule solution pour l'arrêter. Un cousin Druze fait le voyage depuis le Jabal pour demander sa main. Il est accompagné de l'émir Hassan, le chef du clan Atrash. Lui aussi est un cousin d'Asmahan.
Mais quand Hassan aperçoit Asmahan, il décide de l'épouser lui-même et fait sa demande sur le champ. Il ne porte pas le keffieh, ni l'abaya, ni même d'armes à la ceinture. Il s'habille à l'occidentale et va tête nue. Il a déjà épousé 5 femmes. Contre toute attente, Asmahan est séduite. Mais elle veut habiter Damas plutôt que le Jabal, passer les hivers au Caire et elle ne veut pas porter le voile. Hassan y consent. Mais quand elle comprend l'importance du rôle de Hassan pour son clan et ses inquiétudes pour la région, elle renonce à Damas et décide d'aller vivre avec lui dans le Jabal. Elle s'adapte, découvre la chasse, devient une excellente cavalière malgré le terrain rocailleux.
Et puis, l'ennui la rattrape. Elle va de plus en plus souvent à Damas. Elle achète les nouveaux disques d'Oum Kalsoum et d'Abdel Wahab. Damas n'est pas le Caire. C'est une ville encore très conservatrice. Les cinémas ne sont pas autorisés aux femmes, mais elle parvient à assister à une projection de We Dead, le premier film d'Oum Kalsoum. Inspiré des Mille et une Nuits, le film est un énorme succès. Alors le Caire manque atrocement à Asmahan.
En Syrie, Asmahan étouffe. Galop effréné au bord du ravin, flacon de somnifères, elle échappe de peu à la mort. Quand elle se rend compte qu'elle est enceinte, la dépression s'aggrave. Plusieurs tentatives d'avortement échouent. Un télégramme du Caire l'informant que sa mère est malade arrive à point. Désemparée, Hassan autorise Asmahan à se rendre quelques jours à son chevet. Une petite camélia naîtra le 14 juillet. Le jeune prince Farouk, qui a fait ses études en Suisse puis en Angleterre, a succédé à son père sur le trône. Il a 16 ans. Les espoirs qu'il libère le pays de la domination britannique se sont très vite envolés. Et le sentiment national et anticolonial grandit dans le peuple comme dans l'élite. Asmahan veut recommencer à chanter, coûte que coûte. La Syrie attendra, Hassan attendra. Il ne se doute pas que la prochaine fois qu'il la reverra, le cinéma lui aura ouvert ses portes. Elle sera devenue l'héroïne acclamée de Victoire de la jeunesse.
De retour au Caire, un tourbillon de chansons, d'amants, de scandales et de drames emporte très vite Asmahan. Il ne s'arrêtera que le jour de sa mort, plus que quelques années. Pour l'heure, c'est sa liaison avec Ahmed Mohamed Hassanein qui va lui causer les pires ennuis. Archéologue, aviateur, champion d'escrime, diplomate à Washington puis à Londres, il est aussi le tuteur du prince Farouk qu'il continue d'éduquer après son accession au trône. Mais surtout, il est l'amant de la reine Nazli, la mère du jeune roi. C'est une femme parmi les plus élégantes au monde, noctambule et cosmopolite. Il est hors de question qu'une petite chanteuse syrienne se mette en travers de sa route. La haine de Nazli envers Asmahan sera tenace.
Ses amis mettent en garde Asmahan. Tu rentres la tête la première dans un nid de frelons. Mais rien ne l'arrête. Elle est jeune, sa voix est superbe et parfaite, déchirante et envoûtante. C'est Kassabji lui-même, le compositeur attitré d'Oum Kalsoum, qui l'amène à se surpasser. Il lui fait chanter Yatouyour, chanson aux vocalises sophistiquées d'abord destinée à Oum Kalsoum. Et il lui écrit trois nouvelles chansons qui la propulsent au firmament. Avec Asmahan, Kassabji peut donner libre cours à son inspiration moderniste. La fureur d'Oum Kalsoum fait trembler le Caire. Il n'est souhaitable à personne d'entrer en disgrâce avec elle. Après la mort d'Asmahan, Kassabji ne composera plus jamais pour personne, pas même pour Oum Kalsoum.
La renommée d'Asmahan est désormais telle que nul en Syrie ne peut plus ignorer qu'elle est la nouvelle reine des nuits Kairot. La situation n'est plus acceptable pour Hassan. Lorsqu'il arrive au Caire pour la ramener à Damas, il la trouve dans le lobby du Mina House Hotel, où elle a décidé de vivre, laissant sa fille à sa mère. Elle fume, rit avec des amis. Elle sursaute en l'apercevant, se lève et va à sa rencontre. Elle ne retournera pas dans le Jabel. Elle est faite pour la musique et l'art. Sa vie est ici. Hassan prononce la formule consacrée. « Je te répudie », ce qui revient à dire qu'il la libère. Il sort de l'hôtel, la mort dans l'âme. Elle retourne à ses amis, les yeux baignés de larmes.
Une fois le mariage avec Hassan rompu, plus rien ne peut empêcher Asmahan de faire du cinéma. En 1941, Intisar al-Shabab, la victoire de la jeunesse, est un triomphe. Le public est conquis par les chansons de Farid chantées par Asmahan. Le frère et la sœur y jouent des rôles proches de leur propre vie. Les deux héros sont de jeunes chanteurs qui viennent, comme eux, de Bilad al-Sham. Et comme eux, ces jeunes artistes doivent lutter pour se faire une place dans une société qui leur est hostile. Les scénarios sont simples et n'ont que peu d'importance. Le public va au cinéma pour voir le chanteur qu'il aime. Dans une salle de cinéma de Damas, de jeunes druzes tirent sur l'écran à l'apparition d'Asmahan.
Depuis le début du tournage, Asmahan a une liaison avec Ahmed Badr Khan, le réalisateur, qui a aussi tourné les deux derniers films d'Oum Kalsoum. Lorsqu'il la demande en mariage, Asmahan accepte. Certaines mauvaises langues prétendent que c'est pour échapper au mandat d'expulsion qui vient d'être lancé contre elle par le ministère de l'Intérieur. L'ordre émane de la plus haute autorité, la reine Nazli, évidemment. À moins d'obtenir la nationalité égyptienne, Asmahan doit quitter l'Égypte sous 8 jours. Leur mariage durera 40 jours. Il n'a pas le temps de la répudier qu'Asmahan a déjà déchiré le contrat de mariage.
De retour dans sa famille, elle retombe dans la dépression et passe ses nuits dehors, malgré les menaces et les coups de Fouad, qui la contraignent parfois à annuler des représentations. Et puis un jour, elle disparaît.
La guerre européenne a des répercussions directes au Levant. L'Égypte est toujours un protectorat anglais. Le Caire grouille d'uniformes. En attendant d'aller au front, officiers et soldats envahissent les cabarets. La danse du ventre est en plein épanouissement, infiniment plus érotique que ce qui se tournait alors à Hollywood. Mais pour le moment, c'est la guerre.
Si Asmahan a disparu, c'est parce que les Anglais lui ont confié une mission secrète. Il s'agit de préparer l'invasion de la Syrie, encore sous mandat français, en plein régime de Vichy. Les troupes anglaises se sont alliées aux troupes des Français libres et ils comptent sur le soutien des Druzes en Syrie. C'est Asmahan qui doit obtenir cette coopération décisive. En échange, les Anglais promettent au nom des Français l'indépendance de la Syrie.
Arrivé à Jérusalem, Asmahan se rend d'abord à l'hôtel King David, le QG de l'armée britannique. Puis par les collines jordaniennes, elle s'approche de la frontière syrienne à cheval. Arrivée dans le Jabal, elle transmet le message des Anglais aux Druzes. Hassan est gouverneur de la région. Il est parmi les premiers à soutenir les alliés. Asmahan gagne Damas. Elle se déguise en bédouin, le visage couvert de cirage. Elle tente d'atteindre la Palestine sous protectorat anglais. Si elle y parvient, elle sera sauvée. Elle a en sa possession un laissez-passer du commandant des forces spéciales, le général Evett en personne, follement amoureux d'elle.
Le 10 juin 1941, l'invasion de la Syrie par les alliés commence depuis l'Irak, la Transjordanie et la Palestine. Le 21, les troupes alliées entrent dans Damas, les Druzes en tête. Mais les yeux du monde entier sont tournés ailleurs. Hitler vient d'envahir la Russie.
C'est dans un article consacré à la victoire des alliés en Syrie que ses proches apprennent qu'Asmahan est bien vivante. Ils découvrent par la même occasion son rôle pendant la guerre. Et pour finir, ils apprennent son remariage avec Hassan el-Atrash. Il y a deux photos. L'une a été prise au Caire. On y voit Asmahan aux côtés de De Gaulle. Sur l'autre, on découvre Hassan et Asmahan rayonnants, paradant dans les rues de Damas, escortés de cavaliers druzes, suivis de cette déclaration. « Je renonce à ma carrière dans la chanson et le cinéma pour me consacrer à mon pays et à mon mari. »
Hassan vient d'être nommé ministre et résidera à Beyrouth. Cela devrait mieux convenir à Asmahan que le Jabal. Mais non, ça ne va pas. Maisons somptueuses, hôtels internationaux, réceptions légendaires, tourbillons de personnalités artistiques et politiques, rien n'y fait. Ses folles dépenses deviennent aussi légendaires que sa beauté. C'est la descente aux enfers.
Une fois la situation au Levant stabilisée pour les Alliés, les rivalités ont repris entre Anglais et Français, et ces derniers ne tiennent pas leur promesse d'indépendance. Asmahan est accusée d'être un agent double. Certains pensent même qu'elle se serait tournée vers les Allemands. Hassan et elle ne se croisent presque plus. Elle passera quelques mois houleux à Jérusalem avant son dernier retour au Caire, dans un chaotique chemin vers sa fin tragique.
Les rumeurs circulent dans tout le Proche-Orient sur les fêtes qu'Asmahan donne au King David. L'alcool coule à flot, les fins de soirée se transforment en orgies. On prétend qu'elle danse nue avec des officiers britanniques. C'est plus que ne peuvent supporter les Druzes. Certains décident de la tuer. À nouveau, elle s'enfonce inexorablement dans la dépression. Elle n'ose plus sortir de l'hôtel, voyant des Druzes partout dans les rues de la ville. Hassan a emmené leur fille Camélia avec lui dans le Jabal.
À nouveau, Asmahan cherche à mettre fin à ses jours. Découverte par une femme de chambre, un médecin la ramène à la vie. Hassan est prévenu, il vient à Jérusalem, et pour la seconde fois, il lui donne le divorce.
Une semaine plus tard, quand Asmahan descend à la réception, une proposition mirifique de tournage l'attend. Le cachet est exorbitant. Elle doit retourner au Caire, il le faut, mais elle est toujours indésirable en Égypte. À nouveau, elle tente d'obtenir la nationalité égyptienne. Cette fois, c'est Ahmed Salem qu'elle épouse, personnage à la réputation à la fois douteuse et prestigieuse. Il a dirigé les studios Misr, il divorce pour épouser Asmahan, Elle a un film à faire et c'est au Caire que les films se tournent.
Le dernier chapitre de sa funeste histoire peut commencer. Asmahan débute le tournage d'Amour et Vengeance. Farid a composé la plupart des chansons, Khasebji certaines, et les paroles sont de Rami. Elle y incarne une star de la chanson, évidemment. Un rôle qui l'impose comme une figure moderne de l'Égypte, par contraste avec le classicisme irréprochable d'Oum Kalsoum. Youssef Wahbi, acteur et réalisateur du film, ne sait pas encore qu'il est en train de tourner son plus grand succès, un film mythique.
Asmahan et son nouveau mari Ahmed Salem semblent mettre toute leur énergie à aller vers le désastre. Ce soir-là, elle n'est pas rentrée après la fin du tournage. Les studios sont fermés depuis plusieurs heures déjà, Ahmed est hors de lui. Les plus grandes incertitudes planent encore sur ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est sûr, c'est que cette nuit-là, il est transporté à l'hôpital dans le coma, blessé par balle. Un gendarme qui serait intervenu a été blessé lui aussi. Qui a tiré ? Sur qui ? Asmahan est accusée, le scandale est extraordinaire. C'est un cauchemar. Elle étouffe, elle est anéantie. Elle n'aura pas le temps de s'en remettre. Quelques jours plus tard, elle sera morte.
Le 14 juillet 1944, c'est le jour de l'anniversaire de sa fille. Camélia lui manque. Ahmed est encore à l'hôpital, mais il est hors de danger. Le tournage d'Amour et Vengeance est interrompu quelques jours pour la construction du décor du Happy End musical. Asmahan décide d'en profiter pour aller voir sa fille dans le Jabel.
Une amie l'accompagne. Elles prennent place à bord de la voiture. Le chauffeur habituel des studios Misr est malade. Elles sont conduites par un nouveau chauffeur. Le paysage défile, roseaux, palmiers, bananiers. On longe un canal d'irrigation. Dans le Jabal, Camélia doit souffler ses bougies. Le chauffeur braque brusquement le volant, sort de la route, ouvre sa portière et saute. La voiture plonge dans le canal, s'enfonce dans l'eau et disparaît. Le chauffeur ne sera jamais retrouvé. Nous sommes le 14 juillet 1944. Asmahan avait 27 ans. Tuer Asmahan. On soupçonne les Druzes pour des questions d'honneur. Les Anglais, les Français et les Allemands pour des raisons d'État. Ahmed Salem par vengeance et jalousie. On soupçonne même Oum Kalsoum de s'être débarrassée de sa seule rivale. Et la rumeur va jusqu'au roi Farouk, dont elle aurait toujours repoussé les avances, et à la reine Nazli, évidemment. Le mystère reste entier.
La mort d'Asmahan a laissé amour et vengeance inachevés. Le film devient tragique. Wahebi change la fin du scénario. À la place du happy end prévu, l'héroïne meurt dans un accident de voiture. Il change aussi le début. Le film s'ouvre dans un hôpital psychiatrique où le héros devenu dément raconte son histoire à des psychanalystes. Puis, dans un grand flashback, se déroule le film tel qu'il a été tourné avec Asmahan. La rencontre du héros avec la vedette, leur amour fou, puis gloire, musique, meurtre, procès, trahison, vengeance, jusqu'à la mort de la jeune vedette.
C'est un triomphe. Le soir de la première, les spectateurs debout récitent la Fatiha, tournée vers la loge remplie de fleurs blanches où aurait dû se trouver Asmahan. Le roi Farouk est présent. Dès le lendemain, le public se précipite dans les salles pour voir cette histoire qui se confond avec la réalité et pour voir une dernière fois la regrettée Asmahan, comme l'annonce l'affiche et le générique. Et pour entendre encore une fois cette voix déchirante qui vous arrache les larmes.
Cette période de nationalisme croissant, Oum Kalsoum est devenue la personnification même de l'Égypte. Elle incarne un modèle oriental, ancré dans l'héritage et ouvert aux innovations. Ni rétrograde, ni assujetti à l'Occident. Deux vers en particulier sonnent comme un slogan que tous fredonnent dans les rues, les jardins, les cafés. Ouemeni la al-mattalibu bittemeni, ouelekin tukhadu dunya rileben. Les revendications ne s'obtiennent pas par des souhaits, mais le monde s'emporte par la lutte.
Et puis c'est le choc. Le 14 mai 1948, en Palestine, les sionistes font l'annonce officielle par la voix de David Ben-Gourion de la création d'un État juif. Le lendemain, l'Égypte entre en guerre aux côtés de l'Irak, de la Transjordanie, la Syrie et le Liban. Divisés, mal entraînés, en possession d'armes archaïques, les armées arabes sont décimées. C'est un désastre, la Nakba. Les Palestiniens prennent le chemin de l'exode. Les soldats égyptiens rentrent humiliés. La défaite est mise sur le compte de la monarchie corrompue.
Seuls les membres d'une brigade reviennent en héros. Ils ont résisté 3 mois au siège de Fallujah, refusant de se rendre. Plusieurs de ces hommes font secrètement partie du mouvement des officiers libres. L'un d'eux est un jeune capitaine adjoint du nom de Gamal Abdel Nasser. Une révolution se prépare en Égypte. Elle bouleversera le monde arabe tout entier.
Le 25 janvier 1952, pour mater la rébellion, les forces britanniques stationnées dans le canal de Suez se livrent à une répression sanglante. En réaction, d'énormes émeutes se déclenchent au Caire dès le lendemain. L'incendie se propage, tandis que Farouk célèbre la naissance de son fils, entouré de 600 convives. Les dés sont jetés. Les jours du roi sont comptés.
En juillet 1952, il fait une chaleur suffocante quand tombe la nouvelle. Les officiers libres ont pris le pouvoir. Les rues se remplissent. L'écrasante majorité du pays se rallie à la révolution. Oum Kalsoum se mêle à la liesse générale.
Personne ne se doute encore que c'est Nasser qui prend les décisions dans l'ombre. Il veut une révolution sans une goutte de sang versé, pas même celui du roi Farouk. Le roi sera exilé à Capri.
pour la première fois depuis les pharaons, l'Égypte est gouvernée par des Égyptiens. La République est proclamée le 18 juin 1953. Un an plus tard, Nasser en devient président. Il a 34 ans.
Sous l'impulsion de Nasser, la radio égyptienne vit une croissance spectaculaire. Oum Kalsoum est à égalité avec les hommes de ce nouveau régime qui viennent comme elle de la terre, pas d'Oxford et des collèges suisses. Elle inaugure la voix des Arabes, comme elle avait inauguré Radio Misr presque 20 ans plus tôt. On peut maintenant l'écouter en direct le premier jeudi du mois, que l'on soit à Casablanca, à Alger, à Alep, à Mossoul, à Bagdad ou à Sanaa. Sa voix résonne dans la nuit, la voix de l'Égypte dans tout le monde arabe.
Et puis un jour, même la révolution semble dérisoire à côté de ce qui arrive. Après des mois de négociations, les Américains se sont retirés sans prévenir du financement du haut barrage d'Assouan. Ils ne tolèrent plus la politique non alignée de Nasser. Tout le monde attend la réponse du Raïs. Le 26 juillet 1956, Nasser s'adresse aux Égyptiens. Ici, la voix des Arabes, émettant d'Alexandrie. L'immense foule massée sur la place Mohamed Ali acclame le Raïs. Le discours va être long, très long. Nasser catalogue les siècles d'exploitation et d'humiliation du monde arabe aux mains de l'Occident. Il parle de la guerre en Algérie, de l'abandon des Palestiniens, de l'amnésie de ces pays leaders du monde libre qui oublient qu'ils ont rédigé eux-mêmes la déclaration des droits de l'homme qu'ils bafouent tous les jours. Soudain, le ton change. Je vous annonce qu'aujourd'hui même, au nom du peuple, j'ai signé un décret nationalisant la compagnie universelle du canal maritime de Suez. Au nom du peuple. C'est l'explosion. Il l'a fait, il a osé. Il y a 4 ans, ici même, Farouk fuyait l'Égypte. À cette même date aujourd'hui, notre canal nous revient. La foule l'acclame, Oum Kalsoum exulte. Ya Gamal. Nasser relève la tête aux Égyptiens, aux Arabes, aux opprimés.
Une décennie glorieuse s'ouvre au Caire. Et malgré un régime de plus en plus autoritaire, le cinéma et la musique jouissent d'une immense liberté. Au milieu des années 60, Oum Kalsoum est érigée en véritable divinité. À la demande insistante de Nasser, la collaboration entre les deux monstres sacrés a enfin lieu. Oum Kalsoum va chanter avec Abdel Wahab. Il pousse l'audace jusqu'à introduire une guitare électrique dans l'orchestre. Enta Omri est un triomphe absolu, tournant capital dans le répertoire d'Oum Kalsoum. Il lui écrira 9 autres chansons. Et autoritaire, seule femme dans un monde d'hommes, ses indéfectibles lunettes de soleil la protègent et son éternel mouchoir est devenu légendaire. On dit qu'il renfermait la dose de cocaïne nécessaire pour tenir la durée d'un concert. En 1966, elle travaille à une nouvelle chanson intitulée El Atlal, les ruines. Dans le poème qu'elle chante, il s'agit des ruines d'un amour fini. Mais un an plus tard, ces ruines prendront une portée symbolique pour tout le monde arabe tout entier.
Le 5 juin 1967, désillusion, traumatisme. 6 heures suffisent pour détruire au sol la totalité de l'aviation égyptienne. 5 jours suffisent pour perdre le Sinaï, Gaza, la Cisjordanie, le Golan et Jérusalem. L'Égypte est devant son poste de télévision, Nasser démissionne. Instantanément, l'Égypte est dans la rue. Beyrouth, Bagdad, Damas, Alger aussi. Hurlements, cris de désespoir, supplications de la foule. Tous demandent au chef de rester.
ولقد اتخذت قرارا اريدكم جميعا ان تساعدوني عليه لقد قررت ان اتنحى تماما ونهائيا عن اي منصب رسمي واي دور سياسي وان اعود الى صفوف الجماهير أؤدي واجبي معها كأي مواطن آخر.
أم كلثوم pleure. Elle passe des semaines sans sortir de chez elle, prostrée. Même après que Nasser sera revenu sur sa démission. Finalement, elle réagit. Elle va se donner tout entière à son pays. Elle offre ses bijoux pour l'effort de guerre, puis se lance dans une tournée nationale dont les bénéfices iront à la patrie. Comme un orage interminable, l'ovation l'accompagne de Mansoura à Tanta. De Port Saïd à Assyut.
Le 10 novembre 1967, la foule se presse à l'aéroport d'Orly. Pour la première et seule fois de sa vie, Oum Kalsoum va chanter dans un pays occidental. Ses deux concerts à l'Olympia seront phénoménaux. Les spectateurs affluent de toute l'Europe et du Maghreb. On raconte que Hussein de Jordanie était là, incognito. On dit aussi qu'un émir du Golfe aurait menacé la guichetière d'une arme et d'une liasse de dollars, la suppliant de lui vendre une place à prix d'or. C'est l'émeute. Le concert dure jusqu'à 3 heures du matin. Oum Kalsoum est émue aux larmes. Au moment du vers d'Al-Atlal, « Rends-moi ma liberté, dénoue-moi les mains, j'ai tout donné, il ne me reste plus rien », une clameur soulève la salle. On raconte qu'elle a demandé un cachet supérieur à celui de la Calas. Elle le reversera intégralement à l'Égypte.
De retour au Caire, elle entreprend une tournée du Golfe à l'océan. Tunisie, Libye, Maroc, Liban, Jordanie, Soudan, Koweït, Irak. Partout, elle est accueillie comme un chef d'État. Filmée par les télévisions locales et égyptiennes. Partout, tapis rouge, délégation de ministres à l'aéroport, réception grandiose. Et les concerts. Des concerts extraordinaires devant des milliers de spectateurs. Elle rapporte près de 4 millions de dollars à l'Égypte. Oum Kalsoum resplendit, fière. Elle rayonne comme d'habitude. Et personne ne voit qu'elle est fatiguée. Vieillie. Son monde plonge jour après jour dans les ténèbres.
Le 28 septembre 1970, elle vient d'arriver à Moscou quand tombe la nouvelle. Gamal Abdel Nasser est mort. Oum Kalsoum annule ses deux concerts. Elle pleure durant tout le vol retour. Et c'est une vieille femme qui arrive à l'aéroport du Caire où personne ne la reconnaît.
Nasser avait 52 ans. Il a succombé à une crise cardiaque. Dans toutes les villes arabes, les gens descendent dans la rue. La défaite et le régime autoritaire n'ont pas entamé l'amour que lui portait le peuple. 5 millions de personnes envahissent les rues du Caire pour suivre le cercueil. Sa mort va ouvrir l'ère des funérailles.
الله اصطفى آدم ونوحا وآدم.
Le 4 janvier 1973, on est le premier jeudi du mois. Depuis 37 ans, la vie s'arrête ce soir-là. Lorsqu'Oum Kalsoum monte sur scène, personne ne se doute que ce jeudi sera le dernier.
Mais le 4 février 1975, quand la radio égyptienne interrompt son programme et passe les versets du Coran, tout le monde comprend. Oum Kalsoum est morte. Le cortège funéraire afflue vers la place Tahrir. Une masse de 4 millions de personnes enfle comme un fantastique raz-de-marée. Dans les rues du Caire, le sarcophage échappe à ses porteurs et vogue à bout de bras à la surface de cette marée humaine pendant 3 heures.
Oh, Aux nuits, aux mes yeux, de Lamia Ziadé. Enregistré en public au Festival d'Avignon, dans la cour du Musée Calvet, le 12 juillet 2025. Avec Ayed Darwish et Najib Oudghiri. Musique originale et interprétation, Simo Rail, Tim Garçon et la chanteuse Emel Matlouti. Réalisation, Christophe Hoquet. Adaptation, Marion Stoufflet. Assistante à la réalisation, Aurélie Miermont. Production, Anna Uribe, Francesca Fossati et Benoît Gégou. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Prise de son, montage et mixage, Pierre-Henri et Titouan Labarre. Sonorisation, Jean-Benoît Tétu. Remerciements aux équipes techniques du Festival d'Avignon. Aux nuits, aux mes yeux, est publié aux éditions POL.